Vous êtes sur RTL. RTL Midi,
le 12-30,
avec Amandine Bégaud.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30, 2 heures d'infos, de débats, mais aussi d'opinions, bien sûr, avec vous les auditeurs. Vous avez la parole dès 13h, on vous attend au 32-10, à la une, les festivités du 14 juillet qui tournent au drame à Cholet. Un petit garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans ont été tués en plein feu d'artifice. Nous irons aussi en Gironde, où le feu n'est toujours pas maîtrisé, au moins 7300 hectares déjà détruits. Et puis les départs en vacances, plus de 2 millions de voyageurs attendus dans les gares. C'est le plus gros week-end de l'année pour la SNCF. À 12h50, RTL chez vous, votre rendez-vous sur le Tour de France avec Christophe Pacaud. 13e étape aujourd'hui entre Bourdoison et Saint-Etienne. Et ce sera sans Warren Barguil. Le Français a été contrôlé positif au Covid. La question du jour sur RTL.fr, canicule, faut-il interdire l'accès aux forêts pour éviter les incendies? Vous dites oui à 74%. Notre météo, c'est avec vous Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
Les conditions météo compliquent encore un peu plus le travail des pompiers.
Oui, parce que le Mistral s'est levé, il souffle assez fort, 50 km/h. Alors ce ne sont pas des rafales forcément très très fortes, mais vu l'état des sols, vu évidemment les incendies qui sont en cours, ça ne va pas s'arranger. D'autant que ce Mistral va perdurer au moins jusqu'à demain soir. Il sera en perte de vitesse, mais il ne va pas s'atténuer totalement pour la journée de dimanche seulement dans le sud-ouest. Parce que là aussi, on a de très fortes chaleurs. Il n'y a pas de vent, mais la chaleur va perdurer aussi toute l'après-midi et tout au long du week-end. Et je ne vous parle même pas de la semaine prochaine, partout ailleurs. Donc, un temps très ensoleillé. 27 degrés à Rouen cet après-midi. 28 à Paris. Sur la moitié nord, c'est la bonne nouvelle. Ça baisse un peu. 30 degrés au Mans et à Besançon. Encore 34 à Grenoble. 36 à Bordeaux. 38 à Montauban. Et 40 degrés cet après-midi à Nîmes.
40 degrés à Nîmes. Merci Valérie. À tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord donc l'incompréhension après ce drame hier soir à Cholet. Un petit garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans sont morts en plein feu d'artifice. 5 autres personnes ont été blessées. Nicolas Bobby, vous avez rencontré plusieurs témoins toujours sous le choc.
Manon et Sandy ont assisté au drame et participé à l'extinction des flammèches autour d'eux.
On a vu un incendie se déclarer dans le pas de tir, donc on s'est dit bon, ils vont peut-être venir éteindre, ce qui n'a pas été le cas du tout. Tout d'un coup, on a vu un truc blanc rebondir sur l'herbe, passer au-dessus des grilles, puis nous éclater au visage juste là-bas.
Sur la foule qui était devant, on a pris plein la tête, on a eu des cendres qui sont venues juste à nos pieds.
On a vu une dame qui se tenait là, qui était brûlée.
Des spectateurs se sont collés au grillage qui entourait le stade de foot où se trouvait le pas de tir. Gilles Bourdoulex, le maire de Cholet.
Et il y a un moment donné, semble-t-il, qu'un artificier a demandé aux personnes de se reculer un peu à cause des flammèches qui retombent. Et les gens sont revenus très vite. J'ai eu dans mes bras le directeur de la société, il était effondré. Il fait pas des feux d'artifice pour tuer des gens.
Le drame a eu lieu 3 minutes après le début du feu d'artifice musical qui durait un quart d'heure. Les tirs étant automatisés, il était très difficile de tout stopper.
Le récit de Nicolas Bobby à Cholet pour RTL. Pour l'instant, vous l'avez entendu, aucune explication. Des auditions sont en cours. Éric Bouillard est le procureur de la République d'Angers.
La majorité du public est à l'opposé de cet endroit-là, mais à cet endroit-là, on a un public qui s'est massé, plusieurs dizaines de personnes et peut-être même une centaine de personnes. On va avoir un aspect technique qui consiste à essayer de déterminer dans la mesure du possible pourquoi s'est produite cette explosion au sein du bloc. On va ensuite avoir à vérifier si la réglementation a bien été respectée, si toutes les choses ont été mises en place. Et puis on va avoir un autre aspect qui est un aspect sécurité. On vérifiera si on a mis en place un périmètre de sécurité et si on a fait respecter ce périmètre de sécurité. Il est trop tôt forcément pour en tirer des conclusions aujourd'hui.
Le procureur de la République d'Angers au micro RTL, Dan Le Hénaff. En Gironde, la situation est toujours très préoccupante. Les deux incendies qui sont déclarés mardi ne sont toujours pas fixés. Celui de la Teste de Buch notamment, qui continue de progresser. Ronan Léostic est le préfet de l'arrondissement d'Arcachon.
Si nous n'avions pas pris la décision hier après-midi d'évacuer, aujourd'hui nous ne parlerons pas uniquement de bilan matériel, mais de bilan humain. Donc c'est quand même l'information importante à souligner, avec une centaine d'habitations sauvées. La bataille continue toute la journée, parce que nous avons à la tête de feu, direction plutôt le sud, aujourd'hui une situation qui n'est pas très favorable. Si nous ne stoppons pas le feu là, il va se poursuivre dans les Landes.
Juliette Chénion, justement, vous êtes dans les Landes, à Biscarrosse. La tête du feu n'est plus qu'à 5 km. Résultat, les habitants se préparent déjà à d'éventuelles évacuations.
Oui, ce matin par exemple, j'étais avec Christiane qui nettoie souvent son jardin depuis mardi.
Vous voyez, il y a quand même beaucoup de noir. On voit bien que c'est des choses carbonisées. En temps normal, quand le matin je passe mon petit karcher, j'ai quelques aiguilles, mais pas comme ça, pas carbonisées comme ça.
Les flammes sont à plusieurs kilomètres, mais le problème c'est la fumée poussée par les vents. Elle arrive bien jusqu'ici.
On craint vraiment, à un moment donné, j'ai même des voisins qui ont préféré rentrer chez eux. Hein, parce que moi j'ai été quand même incommodée. Hein. Cette nuit, je me suis sentie pas très bien. Les odeurs, si on voit que ça recommence, je pense qu'on va évacuer également par notre propre chef. J'ai une petite valise de prête, on ne sait jamais. Et voilà, un coup de vent, ça recommence. Hein. Malheureusement, on ne peut pas savoir. La nature est capricieuse. Il faut faire avec.
À côté, ses voisines, elles se préparent aussi à l'idée de partir, mais ne sont vraiment pas pressées de le faire. Vous aussi, la valise est prête ?
Sac à main avec les papiers et les médicaments, et puis un sac si je dois aller dans une salle des fêtes. Mais moi, je ne veux pas partir.
On verra. Si on nous dit de partir, on partira. Et puis voilà, il n'y a pas de problème.
Ici, nous sommes à la frontière girondine, mais dans les Landes, un département lui aussi en vigilance rouge pour les feux de forêt.
Le reportage de Juliette Seignon. Au total, pour l'instant, ce sont 7300 hectares qui ont été détruits en Gironde. C'est l'équivalent des trois quarts d'une ville comme Paris. Le bourg de Cazaux a échappé au pire, Nerissa Emani.
Oui, même si on déplore ce midi, trois maisons et deux restaurants brûlés. Au bord du lac de Cazaux, il ne reste que des ruines de ces bâtiments, des carcasses d'objets, chaises, tables, casseroles noircies. Au sol, quelques braises et dans l'air flotte une fumée blanche, encore épaisse. Derrière ces maisons, des arbres de plus de 20 mètres dont la cime est carbonisée. Des pompiers arrosent ce midi les derniers fumerons. La lutte cette nuit a été difficile mais concluante puisque, vous le disiez Amandine, Cazaux est sauvé. Une centaine d'habitations ainsi qu'un puits de pétrole et un captage d'eau potable ont été préservés des flammes. En revanche, le feu n'est ni fixé ni maîtrisé et à cause de la fumée importante, les 4000 habitants de Cazaux évacués hier ne pourront pas rentrer chez eux aujourd'hui.
Nerissa Emani à Cazaux pour RTL. Au total, depuis mardi en Gironde, ce sont 10 000 personnes qui ont été évacuées dans les Bouches-du-Rhône à Tarascon. La situation est un peu plus rassurante ce midi. L'incendie qui s'est déclaré hier au sud d'Avignon est désormais fixé. 300 hectares détruits, 800 pompiers restent toutefois mobilisés sur place. Le Mistral qui s'est levé risque en effet à tout moment de raviver les flammes. 12h37 sur RTL, on va parler à présent vacances. Avec ces 2 millions de personnes attendues dans les gares ce week-end, c'est simple, c'est le plus gros week-end de l'année pour la SNCF. Corentin Bémol, vous êtes à la gare Montparnasse à Paris et ça se bouscule au départ.
Oui, beaucoup de monde en gare, valises et sacs à dos remplis, des départs vers le sud-ouest, vers la Bretagne. Mais j'ai rencontré aussi Karine, Sébastien et leur fille Lorraine, qui ont une destination plus inattendue.
Los Angeles.
Los Angeles, oui. Vous prenez le train pour y aller ?
Non, là on va prendre le RER pour aller à Orly et après on prendra l'avion.
J'imagine que vous devez être super excitée.
Fatiguée, mais ça va.
Si, quand même ?
Ah oui, franchement oui, j'ai hâte. On va aller à Las Vegas, au Grand Canyon, visiter un peu les plus gros endroits touristiques.
Vous avez combien de valises là ?
5 pour 3.
Let's go, du coup.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Des départs, mais aussi des arrivées. Corinne est-elle venue avec toute sa famille ? Ils sont 10 et arrivent tout juste de Nantes pour passer des petites vacances à Paris.
Ah bah on est très excités.
Vous, c'est la première fois que vous venez ?
Oui, on a hâte d'aller voir la Tour Eiffel.
J'ai mes deux filles, mes gendres, et les 4 petits-enfants et mon mari qui est assis un peu plus loin. Donc le programme pour le week-end, nous allons faire la promenade sur la Seine. Et ce soir, nous allons visiter la Tour Eiffel.
Et bah vous allez passer un super week-end.
Bah oui, et puis le temps est là. Donc moi qui adore la chaleur, c'est top, top, top.
Top top, donc dans le sens des départs comme des arrivées. En tout cas, on sent que c'est les vacances. Beaucoup de sourires en gare ce midi.
Top top, comme vous dites. Merci à vous, Corentin Bémol, en direct de la gare Montparnasse à Paris. Top top sur les routes, ça ce n'est pas sûr, puisque la journée est classée orange. Ce sera rouge dans le sud-est. Demain, du rouge partout. Bison Futé vous conseille de quitter les grandes métropoles avant 9h ou après 14h pour dimanche. Attention au retour. Au lendemain de l'interview du 14 juillet, la réponse de Philippe Martinez à Emmanuel Macron, le patron de la CGT, vont debout contre la réforme annoncée de l'assurance chômage.
C'est scandaleux. Durcir les règles de l'assurance chômage, c'est considérer que les chômeurs sont des feignants. Il faut rappeler que près d'un chômeur sur deux ne touche rien comme allocation. Et puis, c'est considérer que le chômage, c'est un choix de vie. Le président de la République montre son vrai visage qui consiste à ne prendre en compte aucune position, notamment des organisations syndicales. C'est proprement scandaleux.
Et Philippe Martinez avec Anaïs Bouissou pour RTL. On en parlait hier. Bruno Le Maire le confirme ce matin. Le taux du livret A passera bien à 2% au 1er août prochain, au plus haut depuis près de 10 ans. C'est la conséquence de l'inflation. Le livret A placement préféré des Français, hein, 55 millions d'entre vous en ont un. À l'étranger, Joe Biden poursuit sa tournée au Moyen-Orient. Le président américain est attendu cet après-midi en Arabie Saoudite, un pays qu'il avait qualifié d'État paria après l'assassinat du journaliste Khashoggi. Bonjour Bénédicte Tassa.
Bonjour.
Joe Biden se retrouve aujourd'hui rattrapé, on peut dire, par la réalité.
Oui, et on va guetter si elle a lieu la poignée de main entre les deux hommes. D'un côté, Joe Biden, qui a fait déclassifier les rapports des services secrets américains sur l'assassinat du journaliste Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul. C'était en 2018. Un rapport qui pointe Mohamed Ben Salman comme le commanditaire. Un Joe Biden qui avait juré qu'il ne saluerait jamais le prince héritier, mais aussi un Joe Biden en disgrâce auprès des Américains qui réclament du carburant moins cher. De l'autre côté, Mohamed Ben Salman, pas encore roi, mais qui dirige de facto l'Arabie Saoudite à la place de son père, à la tête du principal pays exportateur de pétrole et qui pourrait remettre des barils sur le marché pour arrêter la flambée des tarifs. MBS qui a promis qu'il n'y aurait plus de commando de tueurs. Joe Biden sera sûrement accueilli sur le tarmac à Jeddah par le père, le roi Ben Salman, mais le président américain et MBS se rencontreront au cours d'un sommet avec tous les pays du Golfe.
Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL, merci à vous. Le français Warren Barguil ne sera pas au départ tout à l'heure de la 13e étape du Tour de France, testé positif au Covid. Il est en effet contraint d'abandonner. On y reviendra à 12h50 avec Christophe Paco dans RTL. C'est vous. Avant cela, les incendies et cette question, la France est-elle suffisamment équipée? On en débat dans un tout petit instant. À tout de suite sur RTL.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi avec Amandine Bégaud.
C'est une situation sur laquelle on alerte. De nombreux moyens pour permettre aux sapeurs-pompiers, à la sécurité civile d'être dotés de moyens financiers, de moyens aériens supplémentaires. Mais je pense que notre pays est confronté à une réalité aujourd'hui. Le réchauffement climatique, c'est pas 2030, c'est aujourd'hui. Donc il faut une vraie prise de conscience de l'ensemble.
Et c'était vendredi dernier sur RTL. Grégory Allione, le président de la Fédération des sapeurs-pompiers de France, appelait à une prise de conscience générale et réclamait plus de moyens. Une semaine plus tard, la Gironde fait face à l'un des pires incendies de ces dernières années, déjà plus de 7000 hectares détruits. Alors sommes-nous suffisamment équipés pour faire face? La France doit-elle s'adapter? Et si oui, comment? On en débat avec vous, Stéphane Gady. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire de La Mole dans le Var. On se souvient de ce gigantesque incendie qui avait touché votre commune l'été dernier. C'est arrivé aussi par le passé, d'autres étés. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Gironde, vous vous dites quoi? On n'a pas assez de moyens?
Alors écoutez, en France, on est les champions du monde pour demander sans cesse des moyens supplémentaires sans s'interroger préalablement sur le squelette qu'il faut mettre en place pour pouvoir ensuite l'habiller. Donc je milite très fortement pour plusieurs choses. La première, c'est que, comme vient de le rappeler le président Allione, aujourd'hui, plus personne, plus aucun décideur, plus aucun acteur politique public ne peut ignorer les conséquences des mouvements climatiques et du dérèglement qui va avec. Donc il faut absolument engager une politique publique transversale de prise en considération du risque. Le risque n'est pas simplement l'incendie, c'est l'inondation, c'est la submersion. Et donc, tant qu'on n'apportera pas une politique transversale de gestion et d'appréhension du risque, on pourra injecter tous les moyens qu'on veut, on sera sous le sceau de l'inefficacité.
Mais ça veut dire quoi très concrètement, Stéphane Gady? Alors, un ministre du risque?
Alors, très concrètement, moi je milite vraiment pour la création d'un ministre délégué à la gestion du risque et à la protection civile des populations. Alors, pourquoi ce poste-là? Non pas pour créer un poste, pour créer un poste, mais aujourd'hui, tous les ministres mettent leur grain de sel dans le cadre des politiques publiques, et finalement, on n'a pas de cohésion, on n'a pas de cohérence. Mmh. On a le ministère de l'Environnement qui nous pond des plans de prévention des risques incendies, des plans de prévention de risques d'inondation. On a le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de forces de secours. On a parfois le ministère de la Défense qui s'occupe de certaines choses. On a les différentes directions départementales des territoires et de la mer qui s'occupent des conséquences en termes d'urbanisme pour mettre à l'abri les populations, mais finalement, tous ces services-là ne dialoguent pas entre eux. Donc moi, je milite pour la création d'une autorité qui soit en charge de fédérer toutes ces questions pour mettre en place une politique transversale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il me paraît très important de revaloriser l'action des collectivités locales et territoriales, parce que c'est au niveau local que chaque maire, chaque préfet connaît parfaitement son territoire et connaît les risques, là où il faut concentrer les besoins et les actions. Donc il faut absolument mettre en place un canevas efficace entre les maires et les autorités étatiques. Autre chose, effectivement, une fois qu'on aura mis tout ça en place, viendra alors la question des moyens. Moyens aériens, c'est incontestable. Moyens mobiles au sol, c'est également incontestable. Je suggère dans ce cadre-là, parce que ça va déclencher des sommes absolument considérables, qu'on mette en place véritablement un plan européen de soutien aux territoires et de défense des territoires. Parce que
la France n'a pas les moyens seule de...
Exactement, sans le concours de l'Europe et sans, encore une fois, une cohérence des politiques publiques au niveau européen, on n'arrivera à pas grand-chose.
Stéphane Gadi, à l'heure où on se parle, on a 1000 pompiers qui sont donc mobilisés en Gironde, oui, sur ces deux incendies qui sont déclarés mardi. Il y a 800 pompiers dans les Bouches-du-Rhône, ça fait donc 1800. Oui. On en a encore combien, enfin, pour que les auditeurs comprennent bien?
Ben, le souci, c'est... Alors, je salue tout d'abord l'action des sapeurs-pompiers qui est absolument remarquable et leur investissement, leur dévouement. Je crois que c'est pas tellement en termes d'addition qu'il faut raisonner, mais c'est en termes d'efficacité de moyens de lutte.
Mais en fait, je vous pose la question parce qu'on sait qu'en Gironde, ce sont des pompiers du Sud-Est qui sont venus, et puis après on s'est dit, oh là là, il y a les Bouches-du-Rhône où ça flambe, il faut les redécaler. C'est étonnant comme fonctionnement, non?
Mais exactement, parce qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul, déjà, et d'une, et nous, ce qu'on a vécu dans le Var l'été dernier, c'est qu'on a eu des colonnes qui arrivaient d'Alsace, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, etc. Mais ces colonnes-là, ils ne connaissent pas le territoire, ils ne connaissent pas les chemins qu'il faut emprunter pour aller lutter contre l'incendie, et donc c'est problématique. Voilà.
L'incendie donc dans les Bouches-du-Rhône hier, est-ce que vous êtes inquiet, vous, pour vos communes, pour votre commune, par exemple, pour les prochains jours, les prochaines semaines ?
Ben, on est très inquiet et je salue l'action de mon collègue Dominique Lin, le maire du Luc, qui est président du SDIS du Var, et le contrôleur général Éric Groin du SDIS, qui ont mis en place, suite aux incendies de l'été dernier, toute une nouvelle politique d'appréhension de la gestion des incendies pour l'été qui se présente. On est très inquiet parce que l'état de sécheresse est absolument caractérisé. Et on a le contrôleur général Éric Groin qui a déclaré dans la presse il y a 48 heures que d'ici une semaine, nous serons dans la situation de déclenchement des feux de 2003 qui ont ravagé le territoire.
C'est pas effectivement très encourageant ce que vous nous dites là, Stéphane Gadi. Vous citiez à l'instant Dominique Lin, qui est en direct avec nous. On avait quelques petits problèmes de connexion, pour rien vous cacher. Pour vous avoir, l'idée c'était au départ de vous avoir tous les deux ensemble. Bonjour, oui. Monsieur maire du Luc et président des pompiers du Var. Vu de l'extérieur, on avait l'impression, effectivement, ces dernières années, que la France avait fait de considérables progrès en matière de gestion des incendies. On était souvent présenté comme un exemple, hein. Et c'est aussi le travail que vous avez réalisé et auquel Stéphane Gadi rendait hommage dans le Var. Là, on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose et qu'on est un peu dépassé, ou en tout cas pas loin de là. C'est aussi votre sentiment ?
Absolument pas, madame. La France et les sapeurs-pompiers français restent un exemple dans le cadre de lutte contre le feu. Je vous rappellerai, et je salue mon collègue de la Molle, nous avons eu un feu l'année dernière sur Gonfaron. On a engagé 1200 sapeurs-pompiers, femmes et hommes, et on a retourné, sans rentrer dans les casernes, 1200 sapeurs-pompiers, femmes et hommes. Donc déjà, en matière de sécurité, il y a énormément de progrès. Je salue le président du conseil départemental, Marc Giraud, pour le plan camion, où nous avons des camions qui prennent en compte la sécurité des sapeurs-pompiers. Et aujourd'hui, par contre, ce qui change, et mes prédécesseurs l'ont évoqué, c'est effectivement des conditions de plus en plus extrêmes qui changent le paradigme.
Et c'est ça. Mon idée n'était pas du tout de mettre en cause le travail des sapeurs-pompiers, bien au contraire, mais plutôt que les circonstances avaient changé.
Complètement, complètement. Les circonstances, si vous voulez, le réchauffement climatique est là, qui se manifeste par des températures élevées lorsque l'on parle du feu de forêt. Et effectivement, ça change le paradigme par des risques forts et extrêmes plus courants et qui nous imposent à être encore plus, d'anticiper encore plus. Et parce que je vous rappelle que la devise de l'attaque du feu, c'est de façon massive et rapide. Et c'est nous travaillons sur cette notion de rapidité et d'anticipation. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on s'équipe de plus en plus d'experts météo qui nous donnent en temps réel, à l'endroit où nous situons, les conditions météorologiques. Parce que sur le feu de Gonfaron, par exemple, c'est un exemple que nous connaissons aussi dans les années dernières, le feu a changé, le vent a changé plusieurs fois de direction. Et il faut anticiper les moyens et il faut mettre les bons moyens aux bons endroits.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir été en direct avec nous. Stéphane Gady, maire de la Mole, et Dominique Lin, maire du Luc. On pense bien évidemment aux sapeurs-pompiers qui sont au front, à la fois en Gironde et dans les Bouches-du-Rhône. Et on pense à vous aussi, commune du Var, hein, qui êtes sous la menace chaque été, et peut-être encore plus celui-ci. Appelle bien sûr à toutes les personnes qui sont sur place à la plus grande prudence. Merci beaucoup. 12h52 sur RTL, on marque une pause. Dans un instant, le Tour de France.
RTL Midi avec Amandine Bégaud. Christophe Paco.
RTL chez vous.
Bonjour Christophe.
Bonjour Amandine. Bonjour à tous.
Le peloton quitte les Alpes aujourd'hui direction Saint-Étienne. Et deux éléments à prendre en compte encore et toujours sur ce tour. La menace Covid avec le forfait de Warren Barguil. Et puis la chaleur toujours bien présente au départ à Bourdouazan, Christophe.
Oui, température élevée au village départ ce midi, Amandine. Conseil à ce sujet d'un jeune coureur retraité, Johan Ofredo. Une 13e étape pour baroudeur ou sprinter, l'avis de Laurent Jalabert. Le point étape avec Christophe Bérard. La question du jour, c'est avec Hortense Crépin. À quand, après la montagne, une première victoire française sur ce Tour 2022? Et puis une voix aisément reconnaissable pour les fans de vélo, celle du speaker du Tour de France. RTL chez vous, c'est parti.
RTL chez vous,
Christophe Paco.
RTL chez vous ce midi, avec une étape qui nous amène vers Saint-Etienne. Il y a moins de montagnes. Bonjour Johan Ofredo.
Bonjour.
Ça veut dire que des garçons comme vous à l'époque seraient déjà partis à l'assaut de Saint-Etienne et des Verts.
Malheureusement, souvent c'est les jambes hein, qui décident. C'est pas le coureur, on peut avoir des plans en tête. Une étape comme aujourd'hui, on peut penser que ça va être une étape tranquille. Mais pas forcément, parce que sur le Tour de France, il n'y a jamais d'étape tranquille.
La chaleur, c'était vraiment un facteur dérangeant au niveau quoi, au niveau de...
Ouais, la récupération, quand il fait chaud, c'est terrible. Les chaussures par exemple, ça brûle le pied. Ça peut paraître un détail, mais sur 21 étapes du Tour de France, c'est de la souffrance tous les jours.
Le textile aussi, peut-être quand t'as un maillot blanc, un maillot jaune distinctif.
Ah, bien sûr, on l'a vu d'ailleurs, hein, Wout van Aert parfois met un cuissard de son équipe, un cuissard noir. Pourquoi? Parce que le Tour de France a un équipementier bien spécifique et malheureusement, c'est pas les mêmes peaux de chamois. Hein, et avec la chaleur, quand il fait très chaud, on transpire. Et ça peut parfois donner des irritations et ça serait dommage d'abandonner le Tour de France ou d'être en difficulté à cause de problèmes de selle ou de problèmes de pied.
Ouais. On est loin quand même de... C'était quoi? C'est la feuille de chou comme était sous les fesses, hein, là, c'est...
Pas si loin que ça, parce que je me rappelle qu'on avait un coureur, Frédéric Bacquart, et il était fermier. Et alors, il avait pris une insolation et il avait vraiment mis une feuille de chou. Et du coup, il avait couru toute l'étape avec cette feuille de chou, mais mine de rien, bah, c'est les bonnes vieilles méthodes qui marchent le mieux. Alors, t'as l'escalope aussi.
L'escalope, carrément, de veau ou de dinde?
Non, l'escalope crue qu'on met au niveau des fessiers pour soulager, justement, ça marche aussi. C'est les bonnes vieilles méthodes.
Ouais, c'est comme le papier journal quand t'es même en moto, hein, quand t'as froid, quoi.
Exactement, en fait, bah, pareil, en haut d'école, on voit souvent des coureurs prendre un papier journal pour le mettre sur le torse parce que ça absorbe l'humidité et puis voilà, c'est ce qu'il y a de mieux.
Oh, les bons conseils de Johan Ofredo qui aujourd'hui est à la télévision, bien sûr, vous le voyez toute la journée sur France 2. Bonne télé aujourd'hui, on se retrouve rapidement avec notre Laurent Jalabert à nous.
Hein. Avec plaisir.
Tour de France 2022.
RTL chez vous.
RTL chez vous, les métiers du tour et quel métier ? Les aides de l'organe, mesdames, messieurs. Oui. Salut Marc.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Votre rôle sur le Tour de France, c'est d'animer, on dit speaker.
On dit speaker, effectivement, je suis l'un des deux speakers sur la zone départ du Tour de France depuis 2014 maintenant.
Vous êtes la voix du Tour, quoi, finalement, sur le podium?
Alors, l'une des voix, puisque nous sommes quatre désormais à occuper cette fonction. On est deux au départ, deux aux arrivées. Mais en effet, j'ai un rôle assez intéressant sur la zone départ, puisque le rôle principal consiste à accueillir le public qui vient devant le podium. Et puis, le point d'orgue d'une matinée, ça va être l'accueil, bien sûr, du peloton international, l'arrivée de tous les grands coureurs et les porteurs de maillots distinctifs, tout à la fin de la présentation des coureurs.
Évidemment, vous connaissez tout le palmarès des coureurs par cœur.
Alors, 100%, peut-être pas, on va pas se mentir, puisqu'on est, on est ensemble, on est entre nous. On en connaît peut-être un bon 80% quand même.
Pogacar, ça donne quoi?
Ah, Pogacar, c'est 8 étapes sur le Tour de France, double vainqueur du classement général. Il a également gagné Liège-Bastogne-Liège, un palmarès qui ne cesse de s'étoffer. Alors, le plus dur, c'est vrai, avec des grands champions comme Pogacar ou Wout van Aert, c'est que le palmarès ne cesse d'évoluer. C'est-à-dire vraiment à chaque course qu'il participe, toujours favori, très souvent gagnant. Donc, c'est vrai que ça devient compliqué. On a rigolé avec ça, justement, avec Wout van Aert.
Voilà. Ah oui, sur le tour, ils étaient fiches en tout cas. Hein. Combien de langues? Parce qu'il y a un petit mot à chaque fois des coureurs, bien sûr. Hein.
Je vais dire Dankeveld, Dankeschön, thank you very much. Dziękuję bardzo.
Comme nous tous, dans notre métier, vous avez un petit gimmick, un petit truc.
Je pense que mon gimmick, c'est le c'est parti que je prononce de manière très puissante sur la ligne de départ. Dans 3, 2, 1, c'est parti! Ça ressemble à peu près à ça.
Merci Marc, belle journée.
Merci beaucoup.
RTL chez vous.
RTL chez vous et sur la route, direction Saint-Étienne aujourd'hui. Notre confrère du Parisien aujourd'hui en France, Christophe Bérard. Bonjour Christophe.
Salut Christophe.
Comment ne pas revenir sur l'étape d'hier? Ok, un Britannique s'impose, le petit Tom Pidcock, mais derrière, troisième, sur un podium, chose qu'on n'avait plus vue depuis 4 ans, eh bien, on a retrouvé un certain Christopher Froome.
Oui, il y avait une belle histoire avec Christopher Froome, gravement blessé lors d'une reconnaissance du contre-la-montre d'un critérium du Dauphiné en 2019. Depuis, il n'avait plus jamais retrouvé l'intégralité de ses moyens. Et quelque part, il y a quelque chose d'assez beau dans sa démarche, c'est-à-dire qu'il s'est accroché pour le plaisir du vélo. Les derniers Tours de France, il était toujours à la rue. Une belle victoire, si ça avait été l'Alpe d'Huez, ça aurait été fabuleux. Mais déjà, le revoir troisième d'une étape d'une aussi grande difficulté, la résilience de ce Britannique, elle force l'admiration.
Christopher Froome, quadruple vainqueur notamment du Tour de France, sous la plume de Christophe Bérard aujourd'hui en France. À lundi, Christophe, bon week-end.
À lundi, bon week-end à vous.
RTL, chez vous.
Hortense Crépin, bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Non mais j'y crois pas, dites-moi pas que c'est pas vrai. 13e étape et toujours pas une victoire française. Allez, on y croit, c'est bleu, blanc, rouge ou pas aujourd'hui?
En tout cas, je peux vous dire Christophe qu'ils ont envie d'y croire. Hein. Ils veulent voir un Français remporter une étape.
Bardel était bien parti quand même. Hein. Et puis Gaudu aussi, il hein, faut garder espoir. Hein.
Oh non, on y croit. Peut-être pas aujourd'hui, mais après-demain, je pense. Ouais, ouais, j'y crois moi.
Vous verriez qui alors?
Gaudu. Ouais, il a une bonne équipe.
Ah, j'y croyais le 14 juillet hein, national hein, pour la France, mais non. Mais jeudi. Que c'est aujourd'hui à Saint-Étienne.
Et n'oubliez jamais, le Tour d'Hortense, c'est à 8h45, 9h moins le quart.
RTL, chez vous, Christophe Paco.
Un peu de répit sur ce Tour de France aujourd'hui. Nous filons vers Saint-Étienne. Bonjour Laurent Jalabert.
Bonjour Christophe.
Coup de cœur?
Coup de cœur pour les baroudeurs et coup de pouce pour les sprinteurs. Alors, coup de cœur pour les baroudeurs parce que c'est une étape dite de transition. Et bien sûr, il y aura encore quelques courageux qui ont dessous de vie pour se glisser dans une échappée en se disant « j'irai au bout, gagner mon étape ». Coup de pouce pour les sprinteurs parce qu'ils ont galéré quand même. Hein. Deux grosses étapes de montagne avec plus de 4000 mètres de dénivelé. On les a vus arriver devant le camion balai. Et aujourd'hui, elle est maigre cette chance d'arriver au sprint. Mais s'ils veulent la saisir, il va falloir faire rouler les coéquipiers et il faudra se surpasser. Donc, coup de pouce pour les sprinteurs.
Et rendez-vous ce soir à Saint-Étienne, Laurent Jalabert.
On y sera, et à 18h30,
le Club Jalabert,
à tout à l'heure.
Christophe Paco, RTL, chez vous.
Voilà, Amandine, on va tenter bien sûr de gérer au mieux cette chaleur infernale en direction de Saint-Étienne et de son fameux chaudron, plus que jamais le bien nommé aujourd'hui, le Stade Geoffroy Guichard, où sera jugée l'arrivée de cette 13e étape.
Merci beaucoup Christophe et prenez soin de vous avec cette chaleur. Cette 13e étape, elle est bien sûr à vivre sur RTL, un point complet. Toutes les demi-heures, on retrouvera Hortense Crépin sur la moto RTL dès 13h30.
Tour de France 2022. RTL, chez vous.